vous évoque le mot choc? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit là-bas?
C'est pas, vague complet. Hein.
Non, mais c'est pas quelque... La chose, c'est pas quelque chose qui a beaucoup de valeur, en principe. Ça dépend ce dont on vient de parler avant, parce qu'après, on dit c'est la chose en référence avec ce qu'on vient de dire avant. Bon, c'est déjà pas mal.
C'est un manque de vocabulaire aussi. On remplace le mot chose. Absolument. Chose remplace beaucoup de mots. Hein.
Voilà. Un truc, un machin, une chose.
C'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle.
Je pense en effet que le rôle d'un philosophe, c'est de déranger. Un philosophe qui arrangerait, qui réarrangerait les choses, ne jouerait pas, je crois, le rôle qu'on doit jouer actuellement. Le philosophe et la philosophie. Mais on ne dérange jamais assez, enfin. D'avoir dérangé bien peu et bien moins que je n'aurais voulu.
À vrai dire, au jardin, je n'aime guère travailler, car je suis littéralement absorbé par les formes, les couleurs, la lumière, et je préfère l'ombre du bureau pour écrire.
Après amour, toujours, il y a la possibilité de renoncer à tout ce qu'il faut, à tout ce qui est à moi, tu vois, pour quelqu'un d'autre. Je suis responsable de la misère d'autrui, même souvent de la bêtise d'autrui.
Bienvenue sur Radio Piole. Vous êtes sur Radio Piome et aujourd'hui nous allons décortiquer le concept de chose, le concept le plus indéterminé à notre avis de la langue française. Qu'est-ce que la chose? Peut-on la déterminer? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Anthony.
Bonjour.
Et Lou.
Bonjour.
Et moi-même, Maëlle. Commençons par un point étymologique. Chose vient d'abord de causa en latin, qui veut dire cause et qui est l'un des nombreux sens du mot res, qui veut aussi dire chose et qui a donné son nom à la République, la chose publique. Res est par essence le mot. Peut-être, de toutes les langues confondues, le plus indéterminé au monde, puisqu'il veut à la fois dire cause, conséquence, mais aussi discours, quelqu'un, événement. Qu'est-ce qu'on peut retirer de tout ça, Anthony?
Ce que l'on remarque, c'est que le concept philosophique de la chose se définit d'abord par son indétermination. C'est-à-dire qu'on parle d'une chose, on parle de quelque chose, d'un truc, d'un machin, qui par eux-mêmes portent un degré de signification extrêmement réduit. Parce qu'à ce stade de l'élocution, on se formule une pensée sur une chose, sur quelque chose. En réalité, rien n'est dit. Justement, la chose demande à acquérir un ensemble de qualités qui vont permettre d'y faire référence et de la définir par la suite.
D'un point de vue juridique, une chose est une portion délimitée et impersonnelle de l'univers matériel susceptible d'une maîtrise humaine, et c'est l'objet des droits réels en opposition aux droits personnels. La chose, c'est ce dont une personne peut avoir un pouvoir dessus, à l'inverse du bien. Une chose va devenir bien à partir du moment où on y met un caractère personnel dedans, et du coup il y a possession, où là on part sur le droit des biens. Donc du coup une chose... Voilà.
Une chose, c'est l'indétermination pure, quoi. C'est le stade avant l'objet. Et pourtant, dans le langage commun, quand on parle d'une chose, on fait référence à un objet matériel doué de propriétés propres. Il semblerait qu'il y ait déjà une tension entre détermination, indétermination.
Oui, et puis entre matériel et immatériel. Puisque, comme on l'a dit, une chose, généralement, qu'est-ce que ça évoque? Ça évoque un objet. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui, empiriquement, par nos sens, est connaissable. C'est-à-dire que je peux appréhender un objet. Mettons là sur le bureau en face de moi un téléphone, un ordinateur, une bouteille d'eau. La chose, c'est tout de même ce avec quoi l'on est en contact, mais en même temps, ne se définit plus comme chose. Puisque, justement, on a dit qu'à la chose, il fallait lui attribuer des qualités. Mais est-elle encore chose dès lors qu'elle devient objet? Non seulement il y a l'idée de possession, on possède un bien plutôt qu'une chose, puisque encore une fois la chose peut revenir à tout le monde, la res publica comme tu l'as dit, mais encore l'objet se définit par ses attributs qui le caractérisent. La chose, ça pourrait donc être cette espèce de substrat qui justement porte cet ensemble de qualités là, alors qui tour à tour peuvent soit être contenus en puissance dans cette chose là sur le modèle aristotélicien, c'est-à-dire qu'une chose va déployer l'ensemble des qualités qui lui sont propres et qui sont déjà contenues en elle, ou bien des qualités qui lui sont ensuite attribuées par l'expérience dans le temps chronologiquement.
Donc c'est une espèce d'avant-objet.
Tout à fait.
C'est un espèce d'avant la nominalisation, parce qu'au final, les objets du monde sont soumis à cette tendance du langage qui consiste à attribuer des noms aux choses.
Oui, si je te dis que je t'ai raconté un truc, quel truc? De quoi est-ce que je parle? On n'en sait rien, en fin de compte. Et ça demande justement, dans le temps de la discussion, eh bien, à être défini, à être précisé.
Ou alors, on peut aussi observer le mouvement inverse de la chose à l'objet, puis de l'objet à la chose, de repartir sur une certaine généralité, comme on le verra plus tard dans le podcast. On sait aussi quand même que la chose, c'est ce qui s'oppose au sujet en général, c'est ce qui est face à nous, ce qui se présente à nous, est-ce que c'est commun, est-ce que c'est privé? Et là va se poser toute la question de la possession, finalement.
Tout à fait. Ça rappelle en épistémologie la distinction entre le sujet et l'objet, c'est-à-dire le sujet est connaissant et a conscience de l'objet, qui quant à lui est ce dont on a conscience et ce qui est connu. Par conséquent, il y a un petit peu un rapport d'appropriation, c'est-à-dire que la nominalisation et l'attribution d'un ensemble de qualités définitionnelles va permettre de définir une chose, c'est-à-dire je la nomme, donc je la possède, puisque justement j'exerce un rapport quasi ascendant sur celle-ci.
Et on verra aussi la situation paradoxale de l'auto-chosification à travers l'exemple des réseaux sociaux.
C'est-à-dire oui, est-ce qu'on se penche sur le modèle de l'être ou bien de la voix ? Lorsqu'on dit « il faut que je te raconte quelque chose » ou « mais regarde, t'as pas vu ce truc, cette chose-là », on en reste à un stade du seul présupposé ontologique, c'est-à-dire que quelque chose existe et en vertu de cette existence même, elle peut être énoncée ou du moins on peut y faire référence. Mais en fait, on remarque qu'on se limite ici à une description phénoménologique qui en fait n'a même pas vraiment le statut de description, puisque empiriquement, certes, il y a quelque chose, alors quelque chose encore une fois dans l'ordre du discours ou dans l'ordre de mes perceptions, qu'il s'agit par la suite de définir, auquel attribuer tout un ensemble de qualités. Et justement, c'est cette chose qui passe de l'indétermination à la détermination en tant que support de toutes ces, de tous ces attributs. Par exemple, Descartes, dans la méditation métaphysique numéro 2, pense le sujet comme d'abord une res cogitans, c'est-à-dire c'est une chose pensante. La chose ici, qui est le concept encore une fois le plus indéterminé et qui va demander tout un ensemble donc, de qualités que sont l'intelligence, volens, nolens, etc., qui sont en fait donc, l'intellection, la volonté, la possibilité de ne pas vouloir, etc. Donc tout un ensemble de qualités qui vont permettre d'individualiser le sujet et de dire, mais en fin de compte, c'est une substance dont l'existence est enregistrée sur un acte cogitatif. À mesure qu'elle se définit, en fait, on remarque que la chose perd de son caractère chosique, disons, puisqu'elle devient objet ou du moins substance.
Donc la chose, c'est en fait, oui, voilà, l'objet en puissance, et donc c'est un état provisoire, on pourrait dire.
Oui, un petit peu sur le modèle aristotélicien, encore une fois, de la chose contient en puissance sa qualité d'objet.
C'est ça. Donc à partir de ce moment-là, on peut dire que la chose est connaissable ?
Je pense, puisque si l'on s'intéresse encore une fois dans le paradigme cartésien avec les rei extensae, donc ces choses matérielles, justement, elle est connaissable. Alors évidemment, il va y avoir l'intervention de Dieu, etc., comme tertium quid entre ma connaissance, les choses, etc. Mais oui, les choses sont connaissables, puisqu'elles sont le support d'un ensemble de qualités. On pense par exemple à l'expérience du morceau de cire, toujours dans cette deuxième méditation. La cire, je peux la connaître, mais cette connaissance-là, encore une fois, elle est toute relative, puisqu'elle dépend de l'état de la cire. S'agit-il d'une cire encore dure ou bien fondue?
D'accord. Parce que chez Kant, par exemple, dans la critique de la raison pure, la chose n'a pas du tout le même statut, puisque la chose en soi désigne justement l'en-deçà du phénomène, l'essence pure et inconnaissable du phénomène qui échappe au final aux capacités cognitives du sujet, puisque nous, on ne peut connaître que ce qui est sensible, au sens de connaissance scientifique, hein. on est là-dessus, mais la capacité cognitive du sujet, elle se résume finalement à faire la synthèse des manifestations sensibles du monde, et donc on peut connaître les phénomènes, mais on ne pourra pas connaître la chose en soi, le noumen qui s'oppose au phénomène, puisque la chose en soi, c'est le vecteur de la manifestation sensible, entre guillemets.
Justement, peut-être que cette manifestation sensible, on peut la penser comme l'instanciation dans le sensible, encore une fois, d'une idée qui relève, quant à elle, de l'intelligible. Alors certes, on ne peut pas connaître les idées de la raison chez Kant, hein, que sont le monde de la raison et Dieu, le monde de l'être et Dieu, je crois, non, le monde de l'ami Dieu, pardon. Et en revanche, chez Platon, le beau est ce qui a ce privilège-là d'être, par l'exemplification dans les faibles, dans l'objet du désir amoureux, ce qui permet d'élever l'âme justement jusqu'aux intelligibles et jusqu'à la contemplation de l'idée en elle-même. Donc cette chose-là, qui d'abord est matérielle et exemplifiée, peut également être envisagée sous le mode de la chose en elle-même, la chose en soi.
C'est ça, et puis ce qui est intéressant avec le cadre platonicien, on peut dire, c'est qu'au final, on peut en arriver à connaître les idées à partir de l'observation du monde réel. Il s'agit juste de remonter. C'est comme le texte qui est dans le Phèdre, il me semble, sur la contemplation du beau.
Oui.
On va d'abord voir un éphèbe, un beau corps, et puis ensuite on va contempler un bel art. Et puis après, on va en arriver aux belles idées. Et c'est comme ça que se fait l'escalade, finalement, jusqu'aux idées qui se manifestent dans le monde sensible. Alors que la chose en soi, chez Kant, demeurera absolument inconnaissable.
Certes, les idées de la raison chez Kant, elles resteront inconnaissables. Mais on remarque que de plus en plus, la chose se diversifie, se pluralise, mais d'ailleurs dans l'abstraction, puisque ce que l'on ne pouvait pas connaître alors, en fait, des choses qui justement étaient indéterminées, comme par exemple les fonds marins ou bien, j'en sais rien moi, les astres, eh bien, on attribue des qualités. Pourquoi ? Parce que progrès de la technique, avancée en fait dans tout le domaine de l'exploration de notre univers, et c'est ce que d'ailleurs Günther Anders appellera la honte prométhéenne, c'est-à-dire que c'est l'homme qui, par sa technique, en vient à nommer, donc à s'approprier tout un ensemble de réalités qui jusqu'alors lui étaient étrangères.
C'est ça, et c'est ce que Lévinas décrit comme étant l'origine de la science dans totalité infinie. Si le savoir scientifique s'est établi sur une base, c'est bien sur celle de l'étrangeté du monde. D'abord, le monde nous est étranger, inconnu, ça suscite chez le sujet un sentiment d'insécurité, et c'est reprendre l'adage Comtien de connaître pour anticiper, en gros pour mettre en place des dispositifs pour se protéger du monde extérieur, qu'on a constitué un savoir scientifique, et la civilisation et la science vient justement de ce besoin de savoir. Donc on voit qu'il y a quand même un hubris de la connaissance scientifique, de vouloir s'approprier, parce qu'au final, quand on connaît, on comprend, c'est-à-dire on comprend d'eau, dans le sens où on prend dans ses bras, entre guillemets, on prend dans son esprit les choses, et pour en faire des objets connaissables. Et on voit quand même que cette hubris, il s'oppose à ce qu'on a dit sur l'insaisissabilité de la chose.
Tout à fait, parce que au 18e et 19e siècle, surtout, lorsqu'Auguste Comte pense le positivisme, justement, c'est les faits, rien que les faits, tout est matériel, il n'y a plus vraiment de spirituel ni d'intelligible, et nommer va permettre de s'approprier les choses, parce que ça répond à l'espèce d'injonction rationnelle que tout un chacun a, c'est-à-dire que face à l'inconnu, il s'agit de le nommer, de le décrire au moins, pour lui attribuer des qualités. Ce qui parfois, d'ailleurs, dans un mouvement tout à fait inverse, peut renvoyer à la volonté d'indétermination face à certaines choses.
Son sémantisme flou l'a rendu très tôt apte à rendre des termes divers selon le contexte. C'est pour ça qu'au XIIe siècle, pour nommer un acte sexuel ou un organe sexuel, on disait la chose et ce qui correspond au sémantisme de réalité qu'on ne peut ou qu'on ne doit pas nommer.
C'est ça, donc on voit justement qu'il y a un mouvement d'abord de la chose à l'objet quand on veut connaître, mais après on peut aussi décider de ne pas nommer.
De ce qu'on connaît et au finalement qu'on ne veut pas nommer.
Et en même temps on voit de quoi on parle en fonction du contexte, mais on va quand même utiliser le mot chose plutôt que acte sexuel, parce que justement c'est plus accepté. C'est plus accepté d'utiliser un terme générique. Et au final on voit quand même que tu parlais de malaise, c'est intéressant parce que le mot malaise il est intrinsèquement lié à la chose. Dans l'une des définitions que donne le dictionnaire de l'Académie française, il y a le sentiment de malaise intérieur, le fait de sentir toute chose. Ce malaise, il renvoie à la fois à la généralité vertigineuse du terme, qui s'applique à tout, toute chose. Voilà, c'est les choses du monde, quoi. Donc quand on dit qu'on sent toute chose, à la fois, c'est peut-être parce qu'on a du mal à mettre un mot sur ce qu'on ressent, mais c'est peut-être aussi parce qu'on fait signe vers un état d'aliénation. Puisque l'objet, comme on l'a dit, c'est aussi ce qui s'oppose au sujet, ce qui est donc dénué de volonté. Ce qui est réduit en fait à l'état d'inaction. Donc en fait, peut-être que quand on dit qu'on sent chose, on se sent objet d'une manipulation, plus élevée que nous. Et je pense que là, ça peut être intéressant de mobiliser la typologie de Heidegger par rapport au monde, hein, qui classe le monde en trois types d'étangs. Le Dasein, le sujet volontaire, qui réfléchit, qui s'approprie, le Vorhanden, qui est la chose présente à moi, qui est face à moi, et le Zuhanden, qui est sous la main, en fait, la chose utilisable, l'outil. Et toutes ces catégories constituent le complexe intramondain, comme il l'appelle, donc, c'est-à-dire le réseau qui constitue le monde, en fait. Et quand on dit qu'on sent toute chose, peut-être qu'à la fois on se sent un état qui nous distancie de nous-mêmes, à la manière du Vorhanden, mais peut-être aussi parce qu'on se sent utilisé d'une certaine manière, comme un Zuhanden.
Oui, parce que la généralisation, encore une fois, du terme de chose, quand on dit je me sens toute chose, ça permet cette mise à distance. Et cette mise à distance de soi à soi, l'étrangeté de soi à soi, encore une fois, je me sens toute chose. Bon, bah, on suppose que c'est un état qui relève de l'inconnu, ou du moins d'un inconnu vaguement négatif, puisque, mettons, dans le cas d'une maladie, ne pas nommer, dire par exemple j'ai simplement quelque chose, évacue tous les symptômes et la gravité possible et envisageable de la maladie, des symptômes. Donc, quand on dit chose, on s'éloigne, c'est-à-dire on tombe dans un indéfini, mais indéfini qui par là même en fait laisse place à une réalité possible.
C'est comme un euphémisme de la réalité finalement.
Oui, tout à fait. Par exemple, comment as-tu vécu cette chose-là, mettons
un événement réel et dramatique.
Exactement.
Qu'on va transformer en chose, dire cette chose.
Voilà.
Que tu as vécu.
On ne nomme pas, donc on évacue les sentiments par exemple.
C'est ça, et c'est là qu'on voit qu'au final la situation, donc, qu'on désigne avec le mot chose, prend un caractère commun. Parce qu'en fait, à partir du moment où je ne parle pas de la maladie grave que j'ai, ben, dans ma tête, je ne la pense pas comme une chose. Mais à partir du moment où je la nomme chose, au final, où je ne la nomme pas, les autres peuvent voir de quoi je parle sans que ça prenne le caractère grave, au final. Donc ça fait de ma maladie quelque chose de partageable sans que ce soit trop violent pour les autres.
Et en fonction du contexte, on va réussir à savoir de quelle chose on parle et s'y référer automatiquement.
Si j'ai des objets, c'est parce que soit ils m'évoquent quelque chose, soit ils... Enfin, amasser pour amasser, c'est pas très intéressant.
En référence à la typologie heideggerienne que je viens de mentionner, on voit quand même que la chose fait signe vers la possession, puisque du coup, le Dasein est l'agent dominant du monde et qui manipule le monde, et donc la chose se présente à lui comme un support de possession. Et on voit que cette tendance à la propriété se retrouve dans le droit. Dans le Code civil, article numéro 542, on peut lire « La propriété, c'est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi. » Donc on voit quand même avec le terme d'absolu que la propriété c'est une tendance tout à fait autorisée. Puisque on retrouve déjà dans la Genèse, mais même dans des mythes plus anciens, que l'homme est au monde une instance dominante qui peut s'autoriser à manipuler le monde comme il l'entend pour se l'approprier. Et ce qui est aussi intéressant avec cette citation, c'est qu'à la fin elle parle de pas en faire un usage prohibé par la loi, mais au final la loi c'est aussi ce qu'elle est en train de dire, c'est-à-dire on peut en faire un usage absolu. Donc où est-ce qu'on peut situer la limite de la propriété ?
Cette absoluité-là, elle me fait penser à la tradition contractualiste. On pense par exemple à Hobbes ou Locke qui, selon des paradigmes un petit peu différents, mais qui se recoupent, pensent la propriété comme ce dont je peux me servir et ce dont j'ai le droit légitime de me servir conformément à ma subsistance. C'est-à-dire, mettons, une étendue de terre, je peux mobiliser tout un lopin pour assurer, tout simplement, encore une fois, ma subsistance. Mais dès lors que j'empiète sur le lopin de terre d'autrui, à ce moment-là, je crée un contentieux, à partir de quoi ma possession devient ici répréhensible, puisque justement je vais au-delà de mon droit de posséder. Et de même, l'absoluité peut être critiquée, puisque on dit en fin de compte, je possède, mais surtout des choses matérielles. Alors qu'en réalité, si on pense, mettons à l'esclavage, les individus possédaient d'autres individus, ou du moins avaient cette impression de possession-là, presque sur un mode quasi religieux, c'est-à-dire de même qu'un esprit peut en posséder un autre, puisqu'il y avait une dimension d'aliénation dans tout ça.
Oui, donc au final, la limite de l'appropriation, c'est pas seulement instrumentaliser un sujet, c'est aussi instrumentaliser quelque chose qui peut éventuellement avoir un impact sur d'autres. Si je limite les droits d'autrui en m'appropriant un lopin de terre, c'est déjà un dommage collatéral.
Tout à fait.
Donc, c'est déjà une limite.
Et puis tu peux également instrumentaliser au-delà d'autrui l'environnement. Mettons Heidegger, quand il parle de l'arraisonnement, il pense au barrage. C'est-à-dire que le barrage n'est plus simplement une rivière qui s'écoule, mais bien au contraire une rivière dont la force du moins productive va servir à alimenter une centrale électrique dont ensuite je pourrais jouir.
Tout à fait. Mais ça me fait penser aux théories un peu contemporaines de l'écologie, c'est-à-dire qu'on sait quand même que le capitalisme a hérité de cette autorisation à s'approprier, qu'il s'agisse des ressources humaines ou naturelles. Et aujourd'hui, on a deux théories. C'est une qui est plus anthropocentrée, on parle d'environnement, c'est-à-dire que l'environnement, c'est ce qui nous entoure, et donc il faut le préserver à notre propre fin. Et donc là, on est quand même sur une théorie assez centrée sur l'homme, en fait. Et il y a une autre théorie de l'écologie contemporaine qui consiste à dire non, on va préserver l'environnement pour l'environnement. Et c'est là que se pose quand même une question, c'est dans quelle mesure on peut penser à une dignité de la chose elle-même. Et pas seulement par rapport à nous. Parce que là, on parlait s'approprier le lopin de terre, c'est pas bien. Enfin, dans une certaine mesure, c'est pas bien parce que ça peut avoir un impact sur autrui. Mais est-ce que même, ne serait-ce que pour la terre, on peut surexploiter les sols ? En fait, est-ce qu'on peut penser justement préserver les choses ? Pas seulement en référence à nous-mêmes, mais aussi par rapport à elles-mêmes.
C'est par exemple tout le cas, là je pense à l'œuvre d'art. On dit préserver les choses, mais lorsque, après la Révolution française, les œuvres d'art ne sont plus simplement le patrimoine d'une famille, la famille royale, mais bien au contraire, dans une politique encore une fois de publicité, sont le bien en fait, dont chacun peut jouir, tout simplement par la contemplation et le plaisir esthétique qui l'en tire. Bon, est-ce que là, l'œuvre d'art, elle est conservée pour elle-même, parce que dans un souci encore une fois de persistance dans le temps, ou bien est-ce qu'on y trouve quand même encore une fois une utilité, un certain intérêt ? Et puis on se pose encore une fois la question de qui possède l'œuvre d'art, c'est-à-dire on parle des musées, mais il y a aussi les collections privées. Il y a également tout ce qui relève de, des amateurs d'art qui vont avoir chez eux une peinture. Et donc à ce moment-là, est-ce qu'elle a une valeur de meuble, c'est-à-dire qu'il va meubler un salon, c'est ce que dit Houellebecq dans La carte et le territoire, ou bien est-ce qu'elle a vraiment cette valeur intrinsèque-là qui est respectée par le fait qu'on la fasse durer dans le temps?
C'est ça, moi il me semble quand même que l'œuvre d'art, de par sa valeur artistique, doit être commune, de toute façon, puisque bah, en fait, l'œuvre d'art, déjà, c'est pas un objet comme les autres, c'est pas une chose comme les autres même, c'est une chose presque sacrée, dans la mesure où on a dit que les choses, on les opposait au sujet, dans la mesure où les choses étaient réduites à l'inaction, mais l'œuvre d'art n'est pas réduite à l'inaction, dans la mesure où elle exerce une action sur moi. Quand je contemple, elle me renvoie finalement le jeu des facultés dont par contre, mais c'est-à-dire que dans la contemplation esthétique, il y a une communication avec l'œuvre d'art presque, dont c'est ce dont parle un historien de l'art dont j'ai oublié, mais une espèce de relation qui se tisse, de discussion secrète entre moi et l'œuvre d'art. Et donc, si elle est dans un salon, c'est pas très utile, oui. Dans la mesure où la contemplation esthétique ne profite pas à tout le monde. Et puis en plus, on voit bien quand même que la contemplation esthétique, elle doit faire partie de l'éducation. C'est une des choses qu'on peut quand même défendre. Sur la communauté des œuvres d'art.
Tout à fait, et même sur ce caractère à la fois commun et à la fois d'opposition, on peut penser le rapport qu'a Sartre, alors ça c'est dans Les Cahiers pour une morale, au fait que le monde peut lui-même se présenter par sa facticité même, par son objectalité, comme un obstacle vis-à-vis des choix que j'ai. Et donc, je peux tout de même le détruire. Et en le détruisant, je refuse son ustensilité, et donc je préfère supprimer sa facticité, me l'approprier par la même, et mettre en jeu d'ailleurs le rapport que j'ai vis-à-vis d'autrui. On prend l'exemple d'une bouteille, mettons. Sartre parle d'une, je cite, « appropriation par destruction » ou bien de, je cite, « se faire l'anticréateur rêvant d'une destruction continuée ». Pourquoi ? Parce que la violence, en fait, apparaît comme une solution de continuité entre, d'une part, la destruction faite aux choses, et de l'autre, la destruction faite aux hommes. En brisant la bouteille, c'est le rapport que j'ai vis-à-vis des autres, mettons, dans la salle, que je brise, puisque je brise une bouteille, je fais un acte complètement inattendu, et à ce moment-là, ça choque, ça détruit la situation. Ça la modifie, ça en modifie les paramètres. Et donc ça se voit aussi dans la chose publique, en fait.
Oui, pas seulement parce qu'il y a un écart à une norme, mais aussi parce que si on reprend l'idée de réseau intramondain, ce concept-là, il suppose qu'on est tous liés entre nous et que donc on interagit tous avec le monde et que, en fait, même si c'est ma bouteille, quelqu'un d'autre aurait pu l'utiliser et que même, de toute façon, genre là, dans la situation présente, casser une bouteille, c'est juste hors de propos, quoi, oui. Dans une certaine mesure. Mais c'est encore plus probant quand on endommage des infrastructures publiques comme un abribus, une poubelle. Là, on atteint vraiment au vivre ensemble, d'une certaine manière.
Oui, puisque c'est une espèce d'usage, pardon. Oui, parce que c'est une espèce d'usage tacite qu'on a vis-à-vis, mettons, d'un abribus, tout ça. C'est-à-dire que chacun la possède sans vraiment totalement la posséder. Donc ça remet encore une fois la question d'absolu qu'il y avait dans ce décret que tu nous as cité là. Et puis ça met en jeu, tu parles de la relation intramondaine, tout simplement le rapport que l'on a avec autrui en termes de désir.
Quand tu as dit écologie et après quand tu as dit œuvre d'art, j'ai pensé à du coup le truc de est-ce que la nature n'est pas une chose ? Et nous, on transforme la nature en choses, en créant du coup de nouvelles choses qui vont devenir des objets du monde matériel qu'on va nommer choses.
C'est intéressant parce que tout ça, c'est ce que reprend Hannah Arendt dans La condition de l'homme moderne, où Hannah Arendt justement va distinguer d'une part le travailleur qui travaille de ses mains, c'est-à-dire celui qui, l'homme manuel, va rendre factice en fait tout un ensemble de réalités naturelles premières en objet, mettons la chaise. La chaise, c'est fait de bois, alors qu'en réalité, on s'éloigne vraiment des arbres tels qu'ils sont dans un milieu naturel. De l'homme qui va travailler par son corps, va labourer les champs et quant à lui va s'identifier à sa terre. Il fait plus œuvre d'homme que celui qui, simple ouvrier, mettons, va... encore une fois, agencer des réalités de sorte à créer des objets, qui d'ailleurs ne sont plus tant des choses. Et par rapport à l'œuvre d'art aussi, elle s'intéresse là-dessus, puisqu'elle dit l'œuvre d'art, en fin de compte, elle est faite à partir du monde, et elle lui survit, ou du moins, elle est faite pour la contemplation de ce monde même, à la différence d'un objet dont on pourrait avoir un simple usage technique, mettons.
Tout ça, ça vient quand même d'une ontologie précise.
Oui.
Parce que tout le monde n'agit pas ainsi. On a parlé de capitalisme, de chrétienté aussi, mais c'est vrai que je crois que c'est dans... Je ne sais plus dans quel bouquin c'est, de Philippe Descola.
Par de la nature et culture ?
C'est ça. Dans Par de la nature et culture, il fait un peu une typologie des ontologies. Donc, une ontologie, c'est quoi ? C'est un rapport à l'être qu'on a dans une société donnée. Et nous, on est dans une ontologie... je crois que c'est ça, c'est le nom de notre ontologie à nous. On a tendance à définir l'être des choses et à les catégoriser pour ensuite créer cette hiérarchie sujet-objet, ce qui n'est absolument pas le cas dans d'autres sociétés comme celle du totémisme, par exemple,
oui.
Qui identifie l'animal à une âme au même titre que nous, etc. Et que, donc, en fait, on peut avoir différents rapports au monde, simplement celui qu'on a nous, qui donne lieu à tout notre héritage intellectuel, il a pour essence de catégoriser. Et c'est ça qui a donné lieu à une certaine ethos de la productivité, de la rentabilité finalement par rapport au monde.
De la productivité, du désir, c'est-à-dire désir d'appropriation, désir de, mettons, d'identification. Lorsque j'identifie, enfin c'est le triangle encore une fois du désir que l'on retrouve.
C'est ça. Et elle est intéressante cette question du triangle du désir justement. Si on en revient à casser les choses, par exemple du monde. Si par exemple je casse ma bouteille, qui est très belle. Qui c'est une bouteille pylône ou je sais pas quoi.
Que je voulais ta bouteille.
Et Lou, elle voulait ma bouteille.
Je veux ta bouteille.
Bah là, il y a plusieurs questions qui se posent. Parce que ça, en fait, ça renvoie à la triangulaire du désir chez René Girard. Dans, comment il s'appelle son livre ? Mensonge romanesque et vérité. Mensonge romantique et vérité romanesque. Voilà. C'est dans ce livre-là qu'il parle de la triangulaire du désir. Donc ça consiste à dire qu'il y a un agent qui possède un objet. Donc là, on a les deux premiers sommets. Et un agent qui désire l'objet du premier agent. Et en fait, si l'agent B va désirer l'objet, c'est parce qu'en fait, il désire s'identifier à l'agent A. Donc là, l'être et l'avoir sont consubstantiels finalement, parce que si moi j'ai cette super bouteille, c'est peut-être aussi dire parce que j'ai un certain capital économique. Et donc si on veut ma bouteille, c'est peut-être aussi parce qu'on veut avoir ma position dans la société ou je ne sais pas quoi. Donc il va y avoir un rapport d'identification. Et en fait, en cassant l'objet, on casse ce rapport d'identification aussi.
Et en plus, tu fais du coup violence à ma personne qui voulait ta bouteille.
C'est un peu ça.
Mais ce rapport d'ailleurs de l'objet qui véhicule tout un ensemble de représentations, par exemple, ça renvoie à la valeur que l'on attribue à l'objet. Là, on a pris l'exemple d'une bouteille, on peut prendre l'exemple d'un téléphone portable, mais il s'agit là encore une fois d'objets qui, certes, s'ils sont précieux relativement à la personne qui les possède, sont relativement généraux, c'est-à-dire reproductibles techniquement. Si on prend l'exemple d'une couronne, mettons, la couronne garantit le droit de légiférer. Pourquoi ? Parce que symbole de la personne divine sur Terre, etc. Et lorsqu'elle passe d'un roi à un autre, c'est-à-dire que le détenteur initial meurt et c'est son successeur qui la reprend, elle l'investit des mêmes pouvoirs. En fait, on remarque que si on détruit la couronne, ou du moins si on désubstantialise par exemple, avec le fait que dans notre société maintenant, la chrétienté joue un rôle beaucoup plus faible, etc. Les couronnes sont dans des musées plus que sur des têtes, puisque les têtes ont été coupées, bah justement, en fait, on remarque que ça devient une pièce de joaillerie. Et ça ne devient pas du tout un objet à la fois religieux et de pouvoir.
Oui, parce que tout dépend du contexte idéologique dans lequel s'insère l'objet aussi.
Oui.
En fait, j'étais en train de réfléchir à d'autres liens qu'on pouvait faire avec des objets qui ont une importance, genre par exemple la balance de la justice. On va mettre le sens à un objet comme ça. Mais je pensais aussi, je sais pas, par exemple l'écharpe des mères maintenant à l'inverse de la couronne, ou justement de la couronne des Miss France, ou je sais pas, où on apporte du coup une valeur à une personne en fonction de l'objet qu'elle a. Et on va même lui reconnaître un rôle, genre elle rentre dans le rôle de l'objet qu'elle porte.
Oui, c'est vrai.
Que
ça.
Ce soit Miss France et Miss France, parce qu'elle a sa couronne de Miss France, mais quand elle a plus sa couronne, elle est quoi, du coup ? Est-ce qu'elle est juste un individu, ou est-ce qu'elle est toujours Miss France malgré le fait qu'elle ait plus sa couronne ? Enfin, c'est un exemple plus moderne que le roi, du coup. Enfin,
non, mais c'est vrai que c'est super intéressant quand même. Hein.
Oui, tout à fait.
Mais ça reste une ancienne Miss France, tu vois ce que je veux dire.
Oui, c'est ça. Mais après, elle a toujours son écharpe quand elle sort. Et...
Mais quelque chose, par exemple, qui s'inscrit plus dans la permanence. Mettons, on accède à un certain capital culturel ou un certain capital économique. Alors, on s'empresse d'acheter des livres qui y correspondent. Ou du moins, d'acheter, je sais pas, des objets d'art, tout simplement pour briller en société, ou du moins pour, quand on reçoit de la visite, tout simplement en faire étalage. Mais à ce moment-là, est-ce que le fait de posséder ces objets-là investit vraiment dans le capital économique et culturel, c'est-à-dire, ok, j'ai vu, je sais pas moi, une sculpture, je la possède maintenant. Bon, très bien. Mais j'en suis. Enfin, ça ne me confère en rien une autorité pour en parler. Mettons.
Oui, c'est comme est-ce que le pianiste a forcément. Enfin, la personne qui veut faire du piano, une fois qu'elle a le piano, est pianiste, ou est-ce que du coup elle doit avoir la.
Oui, exactement.
Mais là, c'est que de la façade, hein.
Oui, c'est ça.
Pour qu'on soit d'accord. Hein. Enfin, c'est vraiment un truc sociologique de praxis, quoi. C'est-à-dire que j'accumule des objets chez moi, j'invite des invités, par exemple. Mais je peux dire aux gens que je fais du piano. Et les gens, ils vont peut-être juste en déduire, en fonction même de la qualité du piano, mon niveau du piano, tu vois. Si j'ai un clavier, on va dire, oh, bah, elle débute, quoi. C'est un petit synthé de merde qu'elle a acheté chez Darty. Et par contre, si j'ai un super piano à queue, là, ils vont dire, ah ouais, d'accord, là, il y a du level. Alors qu'en fait, ça témoigne en rien de ma capacité à jouer du piano.
Au final, tu peux créer ton théâtre. Tu peux créer ta propre scène dans laquelle tu joues ton propre rôle avec tes propres vêtements.
C'est ça, c'est que des signaux en fait. C'est que des signaux sur qui je suis, bah, ça vous allez le voir en fonction des choses que j'ai accumulées.
Mais c'est tout le rôle des salons mondains par exemple. Il y a un roman de Zola, c'est Peaubouille, où donc Octave entre dans un immeuble bourgeois. Et en fait, il remarque qu'à tous les pianos, enfin à tous les étages, pardon, il y a des pianos justement. Pourquoi ? Parce que jeunes bourgeois et jeunes bourgeoises surtout qui apprennent le piano. Et de même en fait, lors des réceptions, ce sont des robes qui sont mises en évidence. C'est à chaque fois le passage au piano, il y a quelqu'un qui doit chanter, on doit trouver absolument un ténor, bref. c'est en fait un ensemble d'objets qui véhiculent toutes des représentations et ces représentations-là auxquelles les gens cherchent à tout simplement à adhérer.
Non mais en y pensant, ça m'évoque tous les... le fait que la personne elle devient productiviste, qu'elle est là pour produire, pour, à l'égal d'une machine finalement.
Vous allez écouter Material Girl de Madonna. Venez d'écouter Material Girl de Madonna.
Donc en fait, on est sur un univers virtuel avec Pinterest. Genre là, tu crées ton univers réel, et avec Pinterest, c'est tu rentres dans un univers, mais virtuel. Genre vu que tu peux pas, tout le monde ne peut pas s'acheter un piano pour pouvoir créer sa pièce de théâtre, bah tu crées ta pièce de théâtre fictive du coup, en faisant des moodboards sur Pinterest.
Tout à fait. En fait, pour ceux qui ne savent pas, les moodboards sur Pinterest, bah déjà Pinterest c'est une application, il n'y a que des images. Et un moodboard, en fait, c'est un tableau où on va rassembler un certain nombre d'images, on va nommer le tableau, et par exemple le tableau il va s'appeler moi en 2025, ou je sais pas quoi, et là on va rassembler un certain nombre d'images sur ce qu'on aimerait avoir, sur ce qui on aimerait être, le corps qu'on voudrait, et où est-ce qu'on voudrait partir en vacances. Et tout ça va participer d'une accumulation virtuelle, comme tu as dit Lou, pour constituer un univers propre.
Et mais ce qui est marrant, c'est que sur Pinterest, justement, il n'y a pas d'interaction avec les autres. C'est-à-dire qu'à la rigueur, on peut regarder les moodboards justement d'autres personnes, mais on ne peut pas vraiment échanger. C'est-à-dire qu'il y a moins ce truc de « j'ai des chiffres » que l'on va pourtant retrouver en fait sur d'autres applications. On pense par exemple à LinkedIn, où là, il va s'agir de faire étalage de l'ensemble de ses capacités professionnelles de sorte à être justement sur le marché, comme en fait on pourrait se vendre tout simplement sur d'autres applications, mettons des applications de rencontres, Tinder, où il s'agit de se mettre en avant, d'adhérer à quelque chose, à une représentation, mais moins de façon solipsiste, c'est-à-dire au travers de son moodboard Pinterest, que vis-à-vis du regard des gens.
Oui, c'est ça. Parce qu'on voit quand même qu'à travers cette tendance à la possession, on se choisifie nous-mêmes. C'est un peu ça qu'il s'agit de défendre ici. C'est qu'au final, je ne m'affirme pas tant en tant que sujet en possédant que je ne me choisifie parfois, surtout en me rendant visible sur Internet. Puisque comme on l'a vu, bon, la chose, c'est ce qu'on met devant nous. Mais on se fait aussi chose en faisant étalage de qui on est et en sollicitant le regard d'autrui, parce qu'il s'agit bien de ça ici. Peut-être que tout le monde ne peut pas voir mon moodboard, mais si je me dis aussi au fond, si un jour j'arrive à coïncider avec cette version de moi-même, on me verra plus et on me verra mieux. Donc il y a quand même toujours cette idée-là d'être contemplé de l'extérieur, voire jalousé, envié. Et en fait, cette posture-là, elle ne conduit qu'à une chose, c'est l'auto-objectification qui est à l'œuvre dans les réseaux sociaux.
Oui, parce qu'on participe encore une fois dans l'univers de tout un imaginaire, c'est-à-dire, mettons, l'imaginaire bourgeois, c'est la veste barbour, c'est la chasse, mettons, l'apprentissage musical, etc. De même, tout dépend, on parlait du contexte tout à l'heure, du lieu dans lequel on est, encore une fois, à la Sorbonne correspondent certains critères vestimentaires, mettons, les gens se ramèneraient pas en ispac, mais plutôt avec une petite mallette, une serviette, de même, les manteaux longs, tout ça. Enfin, on remarque que c'est vraiment une attitude de mise en scène, d'objectification de soi par soi.
Ouais.
Et ici vécu de manière plutôt consciente, j'ai l'impression, plutôt que non formulée.
Oui, c'est ça. Bon, en fait, je pense pas qu'on conscientise, qu'on se réifie.
On le fait assez naturellement.
On le fait assez naturellement. On le fait aussi par contrainte, parce qu'on se dit, c'est mieux comme ça. Genre, je ferai moins tâche dans cette cour de la Sorbonne si j'ai un manteau long et des petites bottines que si j'ai mes TN, par exemple.
Mais même, c'est assez marrant de mettre en opposition, genre, par exemple, Instagram. Et Pinterest, parce que Instagram, ça va être un réseau social qui est aussi beaucoup sur l'image.
Ouais.
Mais je trouve que c'est différent. Souvent, les gens vont dire que Pinterest, c'est plus une safe place, parce que justement, il y aurait cet écart avec un monde.
Avec les autres.
Ouais, c'est ça. Alors que je trouve que c'est limite peut-être pire. J'adore Pinterest, hein, petite parenthèse, mais c'est même peut-être pire, parce que du coup, Instagram, on va montrer ce qu'on veut aux autres, mais en même temps, tout en se disant que ça va plaire aux autres, parce qu'il y a un objectif de correspondre à ce que les autres veulent qu'on. Enfin, c'est comme Tinder et tout, enfin, un truc où on montre à la personne en face. Il y a de l'interaction parce que du coup, on le montre à une communauté et à un chiffre de personnes qu'on capitalise aussi. Alors que Pinterest, ce serait plus sa réification. Enfin, on est face à notre réification qu'on fait nous-mêmes. Genre sur Instagram, c'est on se réifie pour les autres. Alors que sur Pinterest, on se réifie pour soi-même parce que c'est hyper intime. C'est je fais mon moodboard pour moi. Alors que sur Instagram, c'est je montre ma vie. Enfin... Je sais pas, je trouve que c'est deux manières différentes de voir la façon dont on va s'objectiver en tant que...
Ouais. Après, moi, je dirais quand même que les deux communiquent, parce que si t'as Pinterest, t'as souvent Insta.
Oui,
enfin, j'ai envie de dire, si sur Pinterest, j'élabore encore le projet qui j'ai envie d'être, c'est peut-être finalement pour le publier sur Insta.
L'inspiration
quoi.
De qui j'ai envie d'être, je l'ai trouvée sur Instagram, finalement.
Oui, c'est ça.
La Z-girl que j'ai vue sur Instagram, je vais au final faire un tableau de elle sur mon Pinterest.
Pour être elle et pour devenir elle. Et pour me montrer
et après,
comme elle.
Je suis trop fière d'être elle. Waouh. Et une fois que je suis elle, je vais sur Tinder et montre que je suis elle.
C'est un réseau de réseau. Enfin, de toute
c'est une
façon,
circularité, c'est le cercle vicieux.
Phénoménologie des réseaux sociaux.
De fou, totalement. Mais on voit quand même que dans tous les cas, et on parle d'applications comme Tinder, mais dans tous les cas, on est quand même dans l'idée de s'attribuer des qualités, mais pas de façon naïve, des qualités qui plairont. Donc en fait, plus je vais rassembler aussi ces qualités-là, plus je vais élargir mon public, entre guillemets, de gens qui pourraient potentiellement m'apprécier.
Mais c'est ça tout l'objet de la réification, finalement, c'est faire en sorte que toutes les relations humaines deviennent des choses et deviennent des objets. Et
des transactions.
C'est ça, c'est un capital. C'est, tout devient un capital. Je le mets dans mon capital sur mon CV pour LinkedIn. Je le mets dans mon capital pour Tinder. Enfin, tout.
Le capital séduction.
Capital séduction. Comme le body count, finalement.
Oui.
Genre, c'est, mais vraiment, c'est le body count. C'est la chosification de la personne en fonction d'un capital humain qu'elle aurait eu.
Oui, c'est vrai, elle correspond à un tableau avec des chiffres.
Ce qui est à l'œuvre aussi dans les réseaux sociaux, et notamment avec le mood board, en fait, c'est qu'on va s'attribuer des qualités fictives auxquelles on voudrait coïncider, mais au final, c'est pas nous, c'est pas notre authentique soi. Et donc là, ça fait lien avec le concept de mauvaise foi chez Sartre, qui consiste à endosser des qualités qui ne coïncident pas avec moi-même, hein, mais qui vont juste servir, pour moi, à jouer un rôle dans la société. Un rôle de séduction, par exemple. Mais ce qui est intéressant avec le mood board, particulièrement, c'est qu'au final, il fait aussi un lien avec un concept totalement opposé, qui n'est pas celui de la mauvaise foi, mais qui est celui du projet libre fondamental. Le projet libre, en fait, c'est des projections que j'ai pour devenir moi-même, mais vraiment authentiquement moi-même. Et là, on voit qu'en fait, les deux se recoupent dans le concept de mood board, parce qu'à la fois, j'énumère des qualités avec lesquelles j'aimerais coïncider, et au final, le projet, c'est aussi ça, c'est aussi... projeter en soi-même dans le futur, donc c'est quand même assez paradoxal parce qu'ils sont tous les deux assez nettement opposés dans l'être et le néant. Et après, je suis quand même assez dubitatif parce que dans tous les cas, enfin, c'est une question qui reste ouverte parce que le projet libre fondamental qu'on va matérialiser dans le mood board à travers des images, on peut se dire oui, mais c'est hyper influencé par les réseaux et par les représentations sociales. Mais en fait, dans tous les cas, le projet libre il va être influencé par des représentations sociales. Est-ce qu'on n'est pas juste tous de mauvaise foi? Donc, l'être ou le néant ?
L'être.
Sensible ou intelligible ?
Intelligible.
Violence réelle ou symbolique ?
Violence réelle.
Body count ou capital culturel ?
Body count.
Oula !
Non, c'est mieux d'avoir un body count.
Ah, la Tana !
Oula là 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 ! Bon, d'ailleurs, si jamais vous ne la connaissez pas déjà, il s'agit d'Anouk Milin, que nous avons invitée à la fin de ce podcast pour ancrer Radio Opium dans l'association que nous sommes, Opium Philosophie. Association de démocratisation de la philosophie. Bonjour Anouk.
Bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter ?
Bah moi c'est Anouk, je suis en Master 2 d'histoire de la philosophie à la Sorbonne, Paris 1 pour les intimes. je fais de la philo médiévale, je travaille sur la volonté dans le purgatoire chez deux théologiens du 13e qui sont Thomas d'Aquin et Bonaventure. Et je suis au pôle engagement d'Opium Philo.
Alors, c'est quoi les actualités du pôle engagement ?
Alors, les actualités, lundi 17 mars, donc ça sera passé, j'imagine.
Peut-être.
Peut-être.
Mais bon, c'est bon à savoir.
On fait un atelier avec une asso de Nanterre qui s'appelle Eloquentia. Et on va faire un atelier sur le discours philosophique, où en gros, on va être avec des étudiants et leur expliquer à quoi sert le discours philosophique, qu'est-ce que peut le discours philosophique et comment on en construit un.
D'accord. Et ça va être quoi le programme de l'atelier ? Qu'est-ce que vous allez vraiment faire avec eux ?
Le programme, c'est qu'on va leur montrer les outils de comment on construit un discours. Genre déjà, est-ce que tu veux plus convaincre ou persuader ? Du coup, quel type d'arguments sont les mieux pour ces deux choses différentes ? Et donc, on va leur... et donne des exemples qui sont chez des philosophes. Et après, on leur donne quelques minutes pour préparer un petit speech pour nous convaincre ou défendre une idée ou justement faire un réquisitoire. Enfin, voilà.
Ok. Et dans quelle mesure cet apprentissage à l'argumentation avec des étudiants s'inscrit dans la DA du pôle engagement ?
Bah, c'est pour justement montrer qu'on peut faire... tu n'es pas en étant philosophe, genre il n'y a pas... un choix divin que telle personne sera philosophe et il aura la vérité en tête et il pourra en parler. Genre, c'est vraiment des outils. Et après, tu peux construire ton discours et avoir des arguments philosophiques justement grâce à ces petits outils. Du coup, c'est pour vraiment montrer que la philo, c'est accessible si tu as ces petits tips de « Ah, bah là, je peux rajouter ça, là, je peux parler comme ça pour mieux argumenter, justement. »
Trop bien, trop intéressant. D'ailleurs, comment ça se fait que vous fassiez à Nanterre ? Vous aviez... comment vous y êtes pris ?
Ça s'est contacté, les assos sont contactés entre elles.
Ok, voilà. Trop bien. C'est beau la solidarité étudiante, ouais. Quand même. Et il me semble que vous avez d'autres ateliers de prévus, mais dans d'autres infrastructures que la fac.
Ouais, on va prévoir des ateliers en prison, si tout se passe bien. avec une autre asso qui s'appelle Champs Libres, qui eux sont spécialisés pour les ateliers en prison. Et on va essayer aussi de contacter des écoles pour faire des ateliers avec des enfants. Voilà.
Opium Philosophie est une association très diverse. Hein. On fait autant des podcasts que des ateliers. Et on vous invite à nous suivre sur Instagram pour garder en tête les activités de prévues en cette année 2025. Vous venez d'écouter Radio Opium, diffusé un dimanche sur quatre sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Au micro, c'était Anthony Dominici, Lou Fontana et moi-même, Maëlle Bouvray, avec Anouk Milin pour invité. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les glisser dans nos DM sur l'Insta d'Opium. Merci de nous avoir écoutés et à dans un mois.